Et même quand j'étais sifflé pendant 4 ans par cette patin de Clément.
Le Clermont, c'était Barça Real.
J'étais un peu cassé dans la tête. Je disais, qu'est-ce que je vais faire?
Lâchez les rouges! Lâchez!
Vers Cotter, pour moi, il fait une erreur.
Et moi, je me dis, il faut pas que je sois hors jeu. Faut pas que je sois hors jeu.
C'est le sentiment le pire que j'ai pu avoir de ma carrière.
Toulon-Clermont 2013, les coulisses d'une finale légendaire. Épisode 1, la guerre des étoiles.
Il y a 10 ans, Toulon et Clermont se disputaient le toit de l'Europe dans un match légendaire. À l'image des propos de Dylan Armitage, cette finale fut pour tous les acteurs au moins bouleversante quand elle n'était pas traumatisante. Dans tous les cas, elle reste difficilement descriptible.
Inoubliable, c'est historique, horreur.
C'est une plaie qui est non refermée.
On peut appeler ça une montagne russe ou je sais pas comment on peut dire, ou un soleil élastique peut-être.
C'est dur quoi.
La solidarité.
Ah putain.
Je dirais frustration quoi.
Il y avait une tension incroyable et très lourd, très très lourd.
La neige tombe sur le stade Marcel Michelin. Ce 26 février 2023, Clermontois et Toulonnais se retrouvent pour un match de top 14. 10 ans après la première finale de Coupe d'Europe entre les deux clubs, les supporters des deux camps n'ont pas oublié.
En Coupe d'Europe, c'est la seule qu'on aurait dû gagner, je pense.
D'accord.
Les deux autres, je pense qu'il n'y avait pas plus tôt.
C'était un des premiers matchs que je regardais. Je l'ai d'ailleurs regardé place de Jotte avec des amis.
On a mené 70% de la partie.
Je dirais déchirant.
Et c'est vrai que ça m'a hanté pendant plusieurs semaines de voir la détresse chez les gens, chez les supporters.
On se fait avoir sur, je pense, une faute d'arbitrage.
J'étais jeune, mais j'étais passionné et j'ai un petit peu fissuré.
Ça m'a déjà déchiré le cœur de base. Et je peux te garantir que quand je suis rentré chez moi, j'avais un maillot de Toulon, et bah, je l'ai déchiré le maillot, justement. J'étais tellement vert de rage, là, on méritait de gagner. Et putain, bah, j'ai déchiré en rentrant chez moi, quoi.
Et j'ai tapé de toutes mes forces dans un ballon de rugby qui est parti directement chez le voisin.
Je pense que les Clermontois devaient gagner le match, et nous qu'on a gagné, tant mieux pour nous.
Bah, j'avais les larmes aux yeux.
Mais Clermont avait bien joué, puis pour deux ou trois fois, ils n'ont pas arrivé à scorer.
On avait un petit peu pitié de la SM en fin de compte.
Toulon méritait aussi. Mais Clermont a perdu vraiment une finale qu'il aurait dû gagner, en étant honnête.
RCT-ASM, c'est le choc de cette dernière décennie. Un quart de finale, deux demi et trois finales ont opposé les deux clubs en top 14 et Champions Cup. Une rivalité qui naît dans la bouche de Mouad Boudjelal au Michelin, en janvier 2012.
À un moment donné, les arbitres font pencher la balance. J'ai connu ma première demi-arbitrale en demi-finale contre Clermont. Ce soir, je viens d'en connaître une seconde. J'aime pas ça. Ça me plaît pas trop, ce genre de choses. Clermont n'a pas besoin de ça. Ils ont une équipe magnifique. C'est peut-être la plus belle équipe française. Ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Voilà. Parce que nous, ce soir, ça aurait été un exploit, mais ce n'était pas la valeur des deux équipes. Ils nous sont supérieurs, on le sait bien. Et puis bon, voilà. On voulait se jauger à ce qui se fait de mieux en France. Voilà, on n'est pas ridicule. On n'y est pas encore, mais on en est un petit peu moins loin que ce qu'on pensait.
La rivalité, elle naît de la demi-finale à Saint-Etienne, top 14, trois ans plus tôt.
Pierre-Laurent Gou est à l'époque le journaliste en charge du RCT pour Midi Olympique.
Un des plus beaux matchs de rugby qui m'ait été donné, un des plus intenses de couvrir, de voir en direct. Génial. Clermont gagne et bon, on dit toujours que s'il y avait l'arbitrage vidéo, le score aurait été changé. Mais bon, peu importe, il n'y a pas vol. Mais la rivalité se crée là-dessus. Puis après, il se passait toujours quelque chose lors des Toulon-Clermont.
De son côté, Léo Faure est le journaliste en charge de l'ASM.
En présentation, on avait fait un comparatif en disant que Toulon-Clermont, c'était Barça-Real. Avec alors le Barça-Real de l'époque. Mais c'était assez juste parce qu'il y avait d'un côté, effectivement, ce qu'on a appelé les galactiques du rugby, donc qui faisait référence au Real Madrid avec une accumulation de grands noms. Le Toulon était un peu le Real Madrid du rugby. Et en face, il y avait ce collectif très fort avec des joueurs formés au club, nombreux, formés ou en tout cas passés par le centre de formation du club, et qui vraiment avait avec une impression de domination. Mais ouais, j'y reviens collectif. Alors il y avait un joueur qui cassait un peu tous ses codes à Clermont, c'était Wesley Fofana, qui est vraiment dans ses plus belles années et qui a un côté un peu injouable sur cette saison-là, qui est capable de marquer des essais en battant 4-5 défenseurs et de le faire week-end après week-end. C'est ça, c'est pas simplement un week-end, un exploit, c'est qu'il les accumulait à ce moment-là, les exploits. C'est aussi l'année de son exploit à Twickenham. Enfin voilà, il y avait ce joueur qui était un petit peu hors norme, dont on attendait beaucoup et qui était capable d'ouvrir des situations qui étaient fermées. Il y avait Nalaga, il y avait plein de joueurs qui étaient un peu hors norme, mais c'est vrai que clairement c'était une sensation collective très très forte de se dire que quand ils accélèrent, quand la machine se met en route à 15, il n'y a pas grand chose qui peut les arrêter. Et en face, bah voilà, le Real Madrid, les Galactiques de Toulon avec plein de grands noms dans toutes les lignes, mais moins cette sensation de force collective à ce moment-là.
Pour moi, c'était pas Barça Real, mais c'était Barça Espagnol, quoi. Ou Real Atlético, ouais, voilà. Il y avait quand même une équipe qui paraissait sur le papier supérieure et plus expérimentée. Parce que nous, on n'avait encore rien gagné de l'ère Boudjelal, à part un titre de Pro D2.
Clermont régnant maître sur l'Europe, leader du top 14, invaincu en Coupe d'Europe, les hommes de Jean-Marc Lermé, directeur sportif à l'époque, sont favoris à un trophée qu'ils chassent depuis 3 ans.
Pour moi, c'est l'année où l'ASM a eu le meilleur groupe, quantitativement et qualitativement. Je dirais l'apogée d'une période de construction qui avait commencé avec l'arrivée de Verne en 2006-2007. Et là, on était avec un groupe qui s'était construit sur la durée, qui avait gagné un titre quelques années auparavant. Et on était vraiment à l'apogée de ce groupe-là. Moi, en tout cas, sur la période que j'ai connue à Clermont, c'était sûrement l'équipe la plus impressionnante en termes de potentiel et aussi de qualité de jeu, parce que au-delà de la performance, c'était aussi le jeu proposé qui était spectaculaire.
En face, les stars toulonnaises sont dans l'inconnu. Pour la première fois de son histoire, le RCT accède au dernier carré européen. Mourad Boudjelal, président iconique de Toulon, semble déjà heureux d'être là.
Clairement, c'était l'épouvantail, hein, avec leurs deux ailiers, la Nalaga et Sylvie Batou. Le souvenir que j'ai, moi, c'est que Bernard m'avait dit avant la finale, si on a Nalaga et Sylvie Batou, il n'y a pas de match. Ben, c'est pour ça que je signe à Bana l'année suivante. Parce que sur cette finale, moi, le premier souvenir que j'ai, c'est d'abord la demi-finale.
Avec la percussion de Karl Lehmann.
À Twickenham, quoi. Et ce drop de Johnny.
Hughesbourne, Wilkinson, le drop du pied gauche de Johnny Wilkinson, qui passe, fabuleux, comme en quart de finale face à Leicester. Johnny Wilkinson, 6 pénalités, plus un drop.
Il nous assure carrément une place en finale. Et pour moi, la finale de la Coupe d'Europe, c'était totalement magique, parce qu'il se trouve que l'année précédente, on avait joué la finale du Challenge, si mes souvenirs sont bons. Et c'était à Twickenham, au petit stade, vous savez.
Oui, le Stoop.
Voilà, et je me souviens que, je ne sais plus pourquoi, on avait une réunion ou quoi, au stade de Twickenham, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait, je crois que c'était le Leinster qui s'entraînait, ou l'Ulster, je ne sais plus, peut-être l'Ulster, et, parce qu'il joue la grande finale.
C'est ça.
Et donc, j'étais en tribune, une place exceptionnelle, hein, puisque j'étais seul dans le stade. Et je les regardais en me disant, putain, c'est ça, une équipe finaliste de Coupe d'Europe. Et j'avais plein d'étoiles dans les yeux, quoi. C'était énorme pour moi, une équipe finaliste de Coupe d'Europe. Voilà. Et quand on bat les Saracens en demi-finale, ben, je pense à ça en premier, en me disant, voilà, on est à la place de l'Ulster. Et c'est déjà arrivé en finale de Coupe d'Europe, c'est déjà une victoire, quoi. Surtout qu'on n'en a jamais joué, c'était déjà une victoire.
Botha, Wilkinson, Guito sont les fers de lance d'une constellation de stars. Parfois réduits au rang de mercenaires, ces guerriers de la rade ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais leur ambition dépasse le choc des cultures.
C'est vrai qu'on avait beaucoup de joueurs étrangers qui venaient d'horizons différents.
Mathieu Bastaro, 3/4 centre du RCT.
Il y avait des superstars dans l'équipe. On avait une mission, c'était de gagner. C'est ce qu'on s'était dit en début de saison, ce qu'on s'était promis. Donc on faisait tout pour. On ne partageait pas forcément beaucoup de moments en dehors du terrain. On ne faisait pas des grands repas, toutes ces choses-là. Mais par contre, une fois qu'on était sur le terrain, on est capable de se sacrifier les uns pour les autres et c'est ce qui faisait notre force. Moi, avec certains, j'avais très peu de choses en commun. Mais par contre, sur le terrain, je pouvais me sacrifier pour lui et je savais que lui, en face, à côté de moi, en tout cas, il allait le faire. Donc, c'était, je pense, notre principale force.
Toulon est une équipe presque parfaite. Il lui manque 2 flèches aux ailes. Alexis Palisson et Rudy Wulf souffrent de la comparaison avec Napoléoni Nalaga et Sitivini Sivivatu.
En avant-match, Bernard me dit, on n'a aucune chance, parce que justement, on commençait à parler du Grand Toulon qui était impressionnant devant. Et Bernard me dit, ouais, mais eux, t'as vu qu'ils ont aux ailes et qui en a nous. Clermont avait Sivivatu et Nalaga quand t'avais le pauvre Palisson qui jouait. Donc ça, Bernard me le dit, tu vois, je lui présente les choses un peu comme toi, en disant clairement, Toulon est favori, il me dit, mais non, mais t'es dingue, moi, tu veux que je sois champion d'Europe, voilà, je suis champion d'Europe, si j'ai Sivivatu et Nalaga aux ailes, ok, mais avec qui j'ai, mais je peux pas le dire aux gars, tout ça.
Serein, Van Cotter aurait-il sous-estimé l'adversaire toulonnais?
le murmure d'un doublé s'intensifie en Auvergne, ainsi que dans l'esprit de son manager.
La veille du match, Verne Cotter, pour moi, il fait une erreur. Il faut se rappeler, cette finale de Coupe d'Europe précédait, c'est une chose incroyable, les demi-finales de Top 14. C'est qu'il n'y avait même pas la phase de barrage. Une semaine après, à Nantes, il y avait les demi-finales de Top 14. Et Clermont et Toulon étaient déjà en demi-finale. Et Verne Cotter, on lui parle de la veille du match, et lui extrapole sur le match d'après. Et j'y allais à chaud tout de suite, je dis, mais il fait une erreur manifeste, là. Là, les Toulonnais qui vont entendre ça, ça y est, c'est-à-dire qu'il est pour lui, il a déjà battu Toulon et il est déjà dans sa préparation de la demi-finale.
Et ce Toulon-là dispute sa première finale à l'extérieur. La Yellow Army est deux fois plus nombreuse que le contingent toulonnais et les joueurs le savent. N'est-ce pas Jean-Charles Aurioli ?
Clermont était le stade de Dublin était à 80% jaune parce que Michelin avait payé les avions pour que les supporters clermontois puissent venir au match, le stade était acquis complètement à leur cause.
Bah c'est ce que je dis. Bon, on était vraiment dans une période faste pour les Clermontois. L'engouement populaire, il était très très fort autour du club. Ils étaient tous les ans en phase finale. Puis il y avait eu le quart de finale au Leinster en 2010, qui a déjà mobilisé, je crois, 3500 ou 4000 supporters Clermontois sur du déplacement. C'est énorme. Il y avait eu la demi de Bordeaux, j'en ai parlé, contre Leinster aussi, où le stade Chaban-Delmas, il y avait une ambiance incroyable. C'est vraiment les années où Clermont est très fort sportivement, Clermont est très fort. Administrativement, je vais te dire, c'est un club qui est puissant au niveau des institutions, qui est puissant financièrement, mais il y a un engouement en plus qui est à ce moment-là le plus bel engouement d'Europe, très nettement. Dans le stade à Dublin, à la Viva, pour la finale de 2013, il y aura deux ou trois fois plus de Clermontois que de Toulonnais. C'était vraiment la grosse machine Clermont qui se déplaçait, avec ce côté « j'écrase tout sur mon passage ». Et donc du coup, ça a renforcé ce côté invincible et ce côté à un moment qui les a peut-être un petit peu bercés. Ils ne se voyaient pas perdre, mais personne ne se voyait perdre au club. Alors c'est bien, ça donne un sentiment de confiance, c'est super important, mais ils étaient favoris et tout le monde les voyait favoris. Et les Clermontois eux-mêmes, quand je dis Clermontois, c'est vraiment tout le monde dans le club, mais autour du club, les supporters, la ville, tout était prêt pour célébrer le premier titre de Coupe d'Europe de cette équipe à ce moment-là. Je pense que la défaite n'avait pas été assez envisagée, mais quand je dis ça, je m'inclus moi peut-être dedans, c'est-à-dire que nous, journalistes en tribune, on venait pour voir le sacre de Clermont en tribune, et pas que les journalistes midi-olympiques de partout. Je me souviens qu'il y avait des collègues de Sud-Ouest qui étaient là, qu'il y avait des collègues de PQR, de l'équipe. Ça semblait écrit que cette année, c'était pour Clermont. Quoi. Ça ne pouvait pas leur échapper.
Le 18 mai 2013, tout est en place. La Viva Stadium est en feu. Mais la machine varoise est déjà proche d'imploser en plein cœur quand Sir Johnny Wilkinson tremble.
Avant le match contre Clermont, moi, je faisais mon échauffement, coup de pied, et je n'étais pas du tout bon. Je le trouvais difficile même à frapper le ballon. Moi, la tête, c'était un peu craqué. J'étais un peu cassé dans la tête. Alors, je suis rentré dans le vestiaire. Je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais une idée que j'allais appeler mon entraîneur, mon entraîneur en Angleterre, de tir au but. Alors, deux minutes avant le match, je suis allé dans la toilette avec mon portable. Parce que c'est pas bon d'avoir le portable dans le vestiaire. Alors, j'étais dans la toilette en essayant d'appeler mon entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il allait dire? Je sais pas. Il va dire, oui, bon courage. Je sais pas. Alors, je disais, mais qu'est-ce que je fais? J'étais vraiment pris par cette expérience. Et là, Joe, il était avec l'équipe. Il faisait la parole juste avant de sortir. Et il disait, Johnny, t'es où toi? Je disais, oh, une seconde. Et je suis sorti de la toilette avec le portable. Je dis, OK, il faut cacher le portable. Je l'ai mis dans mon sac. Et je suis rentré dans le cercle, là, des joueurs. Et ça m'a frappé. Est-ce que je vais suivre le feeling, l'envie, le vouloir, ou est-ce que je vais essayer d'être rassuré par les garanties de résultats et tout ça? Et voilà, quand j'ai vu Joe qui parlait comme il parle, et j'ai vu les autres joueurs dans les yeux, ils étaient prêts pour jouer, ils étaient prêts pour tout donner. Moi, je souffrais cette idée que c'était moi qui devais sauver l'équipe avec les coups de pied. Et voilà, j'étais dans le cercle et j'ai vu Joe dans les yeux, il parlait. J'ai vu les autres joueurs, je dis, oh, qu'est-ce que je fais? Tout est bon, tout est super. Je dis, OK, allez les gars, on y va, on va gagner ce coup.
Et c'est ainsi que Wilkinson et Rougerie mènent leurs équipes sur la pelouse pour un match qui les marquera au fer rouge.
Monsieur Roland est prêt, les acteurs
également pour cette 18e finale de Coupe d'Europe, retransmise dans 152 pays, 13 nationalités au coup d'envoi de ce match. 11 Français, vous savez tout. C'est parti pour ce grand choc entre l'ASM Clermont-Auvergne et Toulon, coup d'envoi donné par Brockjes.
Dans le second épisode de cette série, Midi Olympique vous plonge au cœur de cette finale. En particulier dans cette première heure d'abord cadenassée avant de basculer dans la folie lorsque Delon Hermitage marque un essai, ainsi que l'histoire, d'un geste aussi controversé que mythique.